présenté ce soir par Aurélie Kiffer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Le congé après la perte d'un enfant divise toujours la majorité, et ce malgré l'intervention d'Édouard Philippe qui dit « assumer la part de responsabilité du gouvernement, nous irons à l'Assemblée nationale ». La justice se saisit du témoignage de la patineuse Sarah Abitbol. Le parquet de Paris ouvre une enquête pour viol et agression sexuelle sur mineurs contre son ancien entraîneur. De nouvelles mesures de confinement sont prises en Chine pour limiter la propagation du coronavirus. Et à Macao, les casinos ferment pour 2 semaines. Nous verrons l'impact économique de cette mesure avec Élise Delève. Le début des primaires démocrates gâché par un bug dans l'Iowa. Donald Trump jubile. Nous joindrons Isabelle Raymond aux États-Unis. L'opposition les a accusés de manquer d'humanité. Emmanuel Macron lui-même leur a demandé de faire marche arrière. Les parlementaires de la majorité vont donc finalement soutenir la proposition de loi UDI Agir sur l'allongement du congé pour la perte d'un enfant. Plus précisément, les députés LREM reprennent la rédaction du texte avec le gouvernement dans le cadre d'une mission flash sur un amendement qui sera examiné au Sénat la semaine du 3 mars. Mais la polémique n'est pas évacuée pour autant. Bonsoir Pierre Neveu.
Bonsoir.
Le Premier ministre a déclaré ce matin qu'il assumait la part de responsabilité du gouvernement, ce qui n'a satisfait ni l'opposition ni la majorité, comme l'ont montré les débats animés cet après-midi à l'Assemblée.
En allongeant de 5 à 12 jours la durée du deuil parental, le texte devait faire consensus. Il est devenu conflictuel cet après-midi sur les bancs de l'Assemblée. Les députés ont demandé des comptes au Premier ministre, à l'image du député Les Républicains des Ardennes, Pierre Cordier.
En séance, nous vous parlions deuil, traumatisme. Vous avez répondu technique, juridique. Nous vous parlions d'humanité. Vous avez répondu droit du travail. Ce n'est pas une erreur collective, monsieur le Premier ministre. C'est une faute morale de votre majorité.
Arrêtez la manipulation des foules, lui a répondu le député LREM du Rhône, Bruno Bonnel, avant de s'emporter.
Réveillons-nous ! Nous parlons de la douleur absolue. Perdre un enfant, c'est perdre son avenir, sa projection personnelle dans l'éternité. On met du temps à l'accepter, pas 5, pas 12 jours, toute une vie. Pour être un de ceux qui a vécu cela,
s'il vous plaît, un peu de calme.
Légiférer.
Mise en difficulté après ses déclarations la semaine dernière, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a bien tenté de ramener le calme dans l'hémicycle cet après-midi.
Je pense que l'intégralité des parlementaires sur ces bancs, des députés et des membres du gouvernement seront d'accord pour dire qu'il n'y a pas de pire perte, de pire drame dans la vie que de perdre son enfant. Alors oui, le texte va être retravaillé. Oui, je crois qu'il est temps maintenant d'avoir ce temps républicain où nous trouvons ensemble les solutions concrètes qui permettent d'accompagner dans la souffrance ces familles endeuillées.
De nouvelles concertations sur le texte vont s'engager dans les prochaines heures avec des associations, avec des partenaires sociaux. Porteur de cette proposition de loi, le député UDI Agir du Nord, Guy Bricout, a appelé lui ses collègues au bon sens, à un élan de générosité.
En démocratie, reconnaître ses erreurs est sain. Pour beaucoup de ses parents, ce combat est le combat d'une vie. Par la force des choses, il est devenu mon combat personnel. Il est maintenant, j'en suis sûr, celui de tous les groupes ici réunis.
Mais dans les rangs de la majorité, cet épisode a laissé des traces. Bon nombre de députés souffrent de passer pour de simples godillots dans les rangs LREM. Les critiques nous font très mal, reconnaît le Premier ministre.
Pierre Neveu. Christophe Castaner s'incline. Après le doute sérieux émis par le Conseil d'État sur sa circulaire, le ministre de l'Intérieur a revu le seuil au-delà duquel les préfets attribueront des étiquettes politiques aux listes candidates aux élections municipale. Il n'est plus fixé à 9000, mais à 3500 habitants. Aussi inédite de l'apprentissage en France. L'an dernier, 368 000 jeunes ont signé un contrat d'apprentissage, ce qui représente une hausse de 16% sur un an. Et tous les secteurs d'activité, tous les territoires et tous les niveaux de qualification sont concernés. La ministre du Travail s'en félicite. L'image de l'apprentissage se transforme de filière d'échec en voie royale vers l'emploi, déclare Muriel Pénicaud. Mais l'offre correspond-elle à la demande, Catherine Pétillon ?
Alors, 37% d'apprentis en plus en un an au Compagnons du Devoir, pour ne prendre que cet exemple, c'est un chiffre important, une hausse engagée il y a quelques années et accentuée par la réforme via les changements qu'elle a introduits, explique-t-on aux compagnons, mais aussi beaucoup en raison de la communication que cela a entraîné autour des filières d'apprentissage. Les centres de formation des apprentis ont fait connaître leur offre et suscité davantage de candidatures, mais de manière inégale, remarquent les compagnons qui ferment à 30 métiers métiers différents. Les offres d'apprentissage pour découvreurs, déplâtriers peinent à trouver preneur quand les formations en pâtisserie, maroquinerie ou menuiserie attirent plus de jeunes qu'il n'y a de place. Au risque peut-être que la communication gouvernementale autour de l'apprentissage ne fasse des déçus parmi les candidats. Pierre Gomez est directeur du Centre de formation des apprentis des métiers du bâtiment à Rueil-Malmaison.
Nous avons chaque année, et nous le constatons depuis un certain nombre d'années, nombre de jeunes que nous ne pouvons orienter vers l'apprentissage par manque d'entreprises. Aujourd'hui, par rapport aux offres des entreprises pour la signature de contrats d'apprentissage, nous avons deux demandes pour une offre disponible. Il faudrait aussi que la profession se mobilise, les organisations professionnelles se mobilisent pour que demain, tous ces jeunes qui sont en demande puissent trouver un contrat d'apprentissage.
La correspondance entre l'offre et la demande reste problématique. Beaucoup de jeunes abandonnent la voie de l'apprentissage faute d'avoir trouvé une entreprise. En décembre dernier, les ministères du Travail et de l'Enseignement ont confié une mission conjointe à Guillaume Houzel, l'ancien directeur du CNUS, charge à lui précisément de faciliter la mise en contact des jeunes, des CFA et des entreprises.
Catherine Pétillon. Refuser la réhabilitation pour les condamnés à mort, n'est-ce pas contraire à la Constitution? Question sur laquelle s'est penché ce matin le Conseil constitutionnel. Une QPC, question prioritaire de constitutionnalité, soulevée par les avocats de Gérard Fesch, dont le père, condamné à mort, est exécuté en 1957. Jacques Fesch, homme au parcours atypique, a fait l'objet d'une procédure de béatification suite à des écrits laissés en détention. La loi actuelle rend impossible la réhabilitation judiciaire des condamnés à mort, comme Jacques Fesch, et c'est ce qui est mis en cause, Céline Autain.
Rappelons d'abord qu'en France, il est possible de réhabiliter une personne pénalement condamnée en respectant certaines conditions. Il faut que la peine ait été exécutée, qu'un délai de 5 ans soit passé et en cas de décès du condamné, qu'un conjoint adresse la demande un an au plus tard après cette mort. Des conditions que ne remplissent pas Jacques Fesch et les autres condamnés à mort exécutés, c'est ce que se contente de souligner à l'audience le secrétaire général du gouvernement. Le législateur aurait peut-être dû prévoir autre chose, admet-il, mais ces règles ne méconnaissent pas les exigences constitutionnelles. Faux, lui répondent les avocats de Gérard Fesch, maître Dupont-Moretti et maître Spinozzi. Il y a rupture d'égalité entre les condamnés à mort et les autres. Ils insistent sur le comportement exemplaire de Jacques Fesch, de son arrestation à son exécution, sur ses écrits et sur la procédure en cours de béatification. Autant de preuves, selon eux, qu'il s'était amendé, que la sanction peut donc changer l'homme et que la peine de mort était injustifiée. Les avocats reconnaissent la nature unique et exceptionnelle du cas qu'ils défendent. Si le Conseil constitutionnel venait à abroger l'article incriminé, il y aurait peu d'actions engagées. Mais l'exercice d'un droit, rappelle-t-il, ne se mesure pas au nombre de ceux qui peuvent l'exercer. Maître Spinozzi demande par ailleurs de limiter ce droit de réhabilitation aux héritiers du premier degré ainsi qu'aux conjoints dans le cas d'un comportement exemplaire de la part du condamné et de conclure solennel sur la nécessité humaniste d'accorder un pardon laïque et judiciaire à Jacques Fesch.
Le Conseil constitutionnel rendra sa décision le 28 février. La vague MeToo atteint le sport français. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour viol et agression sexuelle sur mineurs contre Gilles Beyer. Cet ancien entraîneur de patinage artistique est accusé par Sarah Abitbol d'avoir abusé d'elle. Bonsoir Stéphane Geneste.
Bonsoir.
L'enquête fait suite au livre témoignage que vient de publier la patineuse.
Oui, un si long silence, c'est le nom du livre où l'ancienne patineuse de haut niveau Sarah Abitbol accuse son ex-entraîneur de l'avoir violée et agressée sexuellement. C'est donc après avoir analysé cet ouvrage que le parquet de Paris a décidé d'ouvrir cette enquête. Même si la période des faits entre 1990 et 1992 est désormais couverte par la prescription, les investigations qui sont menées par la brigade des mineurs ont pour objectif d'identifier d'autres victimes potentielles. Après cette annonce, Sarah Abitbol s'est réjouie de l'ouverture d'une enquête. Elle se dit contente, soulagée et elle se félicite que les choses sont, je cite, en train de changer. Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, s'est quant à elle exprimée sur le réseau social Twitter. Elle écrit que cela est un signal fort et que la parole des victimes doit être entendue par la justice. La semaine dernière, Gilles Beyer a reconnu avoir eu des relations intimes et inappropriées avec Sarah Abitbol, lui présentant même des excuses. D'autres anciennes patineuses ont également émis des accusations similaires contre cet ex-entraîneur. Au début des années 2000, sur la base de signalements de parents, Gilles Beyer avait fait l'objet d'une enquête judiciaire qui n'a pas abouti, puis d'une enquête administrative. Ces événements avaient conduit le ministère des Sports à mettre fin à ses fonctions de cadre. Hier, Roxana Maracineanu Christine Hanou a demandé au président de la Fédération française des sports de glace des explications sur le maintien en poste de Gilles Bayer dans un club de patinage parisien, alors que des soupçons pesaient déjà sur lui. L'enquête ouverte par le parquet de Paris pourrait donc durer plusieurs semaines. Sarah Abitbol sera ainsi entendue par la justice, tout comme d'autres potentielles victimes.
Stéphane Genest, les difficultés financières du Rassemblement national risquent de s'aggraver encore. Le parti de Marine Le Pen va devoir s'expliquer devant une juridiction russe au sujet du non-remboursement d'un prêt. Un prêt de 9,14 millions d'euros contracté en 2014. L'affaire doit être étudiée en première instance le 2 juin. Nous avions suivi il y a 10 jours les commémorations du 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Une quarantaine de dirigeants du monde entier s'étaient alors réunis au mémorial de Yad Vashem à Jérusalem. Et plusieurs intervenants avaient profité de cette cérémonie mémorielle pour tenir des discours politiques. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, mais aussi Mike Pence et Vladimir Poutine. Aujourd'hui, la direction de Yad Vashem présente ses excuses, Frédéric Mettezo. Elle reconnaît avoir diffusé des informations inexactes relatives au conflit.
Oui, dans une lettre, le professeur Dan Mishman fait mea culpa, et ce n'est pas n'importe qui, puisqu'il dirige l'Institut international pour la recherche de l'Holocauste à Yad Vashem. Il évoque les petits films qui ont ponctué l'événement, notamment celui qui rappelait les grandes dates du conflit. Et le chercheur ne prend pas de gants. Il avoue certaines inexactitudes qui ont conduit à une présentation partielle et déséquilibrée des faits historiques. Il poursuit. Pas de mention du partage de la Pologne entre Hitler et Staline en 1939, frontières polonaises incorrectes, confusion entre camps de concentration et camps d'extermination. La lettre reconnaît que ces films ne reflètent pas la complexité de l'Holocauste. Il s'excuse pour des erreurs malheureuses. Il regrette enfin l'obscurantisme et la distorsion de l'histoire dans les discours politiques.
Et Vladimir Poutine avait profité de l'événement pour glorifier la Russie, Frédéric.
Ah oui, avec sa vision très russe, très soviétique même de la Seconde Guerre mondiale. Poutine avait mis de côté le pacte germano-soviétique ou le massacre de Katyn. Au contraire, il a bien insisté sur les collaborateurs polonais, ukrainiens et baltes des nazis. Il a oublié de mentionner les Américains, les Britanniques et les résistances intérieures parmi les vainqueurs de la guerre. Poutine a aussi mis sur le même plan les victimes de la Shoah et celles du siège de Leningrad. La presse israélienne rappelle que la cérémonie a été organisée il y a 10 jours par un oligarque russe juif proche de Poutine. Et ce n'est pas la première polémique du genre. Il y a 2 ans, par exemple, Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, avait appuyé une loi mémorielle très controversée en Pologne. Le premier ministre israélien qui a fait des leaders polonais ou hongrois ses meilleurs alliés européens, quitte à fermer les yeux sur leur penchant révisionniste ou antisémite.
Frédéric Mettezo en direct de Jérusalem. Nous allons maintenant aux États-Unis où Donald Trump boit du petit lait. Le président américain qui s'apprête à faire son discours sur l'état de l'Union se réjouit des déboires des démocrates. La cour à l'investiture démocrate a débuté dans la plus grande confusion hier dans l'Iowa. Les organisateurs des caucus ont été incapables de publier les résultats en raison d'incohérences dans le décompte des voix. Alors est-ce qu'on a maintenant des résultats, Isabelle Raymond?
Alors non, le Parti démocrate est d'ailleurs bien incapable de dire à quelle heure les résultats seront prononcés. Dès que possible, dit-il, on n'est pas très avancé. Il commence toutefois à distiller quelques informations au compte-gouttes sur le pourquoi du comment. C'est la faute, dit-il, de cette application mobile qui était censée moderniser le caucus de l'Iowa, rendre en tout cas la transmission des résultats plus fluide. Sauf que cette application, visiblement, n'a pas fonctionné. Elle n'avait pas non plus été testée auparavant par ceux qui l'ont utilisée sur le terrain dans l'Iowa, et en prime, l'assistance téléphonique mise en place par le Parti démocrate hier soir a été totalement défaillante. Bref, un fiasco. Les équipes de campagne des différents candidats à la primaire démocrate sont censées être tenues au courant de l'avancée du processus dans les toutes prochaines heures, mais elles sont furieuses. En revenant de l'Iowa tout à l'heure, Grégory Phillips a rencontré pour France Culture Nina Turner, co-directrice de campagne de Bernie Sanders.
Je ne suis pas sûr que les démocrates s'en remettent. Ce qui vient de se passer donne un avantage hors du commun à Donald Trump. C'est la honte pour le Parti démocrate.
Et effectivement, Donald Trump savoure le moment au point qu'il est resté plutôt sobre sur son canal de communication favori, le réseau social Twitter, se limitant à seulement féliciter le vainqueur du caucus de l'Iowa.
Isabelle Raymond, en direct de Washington. Les autorités chinoises ont pris de nouvelles mesures de confinement aujourd'hui, non loin de Shanghai, la capitale économique, pour endiguer l'épidémie de coronavirus. Et à Macao, capitale mondiale du jeu, le chef de l'exécutif local a fait fermer tous les casinos de la région. Mais cette fermeture de 2 semaines est un coup dur pour l'économie de Macao, essentiellement basée sur l'industrie des jeux, Élise Delève.
Macao est une région administrative spéciale de Chine, qui vit essentiellement grâce aux casinos. Et c'est la seule région de Chine qui autorise les jeux d'argent depuis le début des années 2000. 80% de ses revenus annuels proviennent de cette industrie. Macao, en termes de jeux d'argent, c'est plus que Las Vegas. Ces casinos rapportent en une semaine ce que les casinos de Vegas rapportent en un mois. Et tous les ans, 55 millions de touristes viennent jouer à Macao, un afflux qui effraie le gouvernement local. C'est pourquoi il a décidé de fermer tous ses casinos pendant 2 semaines. La majorité des personnes qui viennent d'habitude à Macao sont des Chinois du continent qui n'ont qu'à traverser un pont ou une frontière en voiture. Le gouvernement n'a pas voulu prendre de risques. 10 cas de coronavirus ont été confirmés à Macao, dont une femme qui travaillait dans un casino. La région n'a pas encore prévu de fermer ses frontières avec la Chine continentale, mais envisage de fermer certains points de passage. Son voisin Hong Kong l'a déjà fait. Depuis qu'il a acquis un statut spécial, Macao n'a fermé ses casinos qu'une fois, en 2018, à cause d'un typhon, mais cela n'avait duré qu'un jour et demi.
À l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer, nous avons choisi de nous intéresser à un cancer rare. Il ne touche que 500 personnes par an. C'est pourtant le cancer de l'œil le plus fréquent chez l'adulte. Le mélanome de l'UV se traduit par des symptômes mal connus. On peut voir des flashs un peu irisés ou avoir une partie du champ visuel altérée. Bonsoir Tara Schlegel.
Bonsoir.
Diagnostiquer la tumeur est assez tôt. Est essentiel, Tara, parce qu'on peut souvent sauver l'œil malade, notamment grâce à la protonthérapie.
Oui Aurélie, c'est un accélérateur de particules de protons capable de détruire au millimètre près la tumeur. Et quand Vincent, un patient que j'ai rencontré, a su qu'il avait un mélanome de l'UV en 2010, eh bien, il a immédiatement opté pour cette technique assez spectaculaire. Il faut toute une préparation.
C'est un masque en résine, en fait, où ils prennent une empreinte de votre mâchoire principalement. Et donc ça bloque tout le bas du visage. Et après, vous êtes installé sur une chaise où vous êtes aussi sanglé, donc c'est un peu impressionnant, hein, parce que vous êtes sanglé sur une chaise, sanglé de partout, et en particulier du visage. Et puis, un petit effet désagréable, c'est que vous avez des écarteurs de paupières. Voilà, mais bon, une fois qu'on s'y habitue, c'est très vite fait. Hein, mais et ensuite, vous avez un rayonnement qui est, lui, très court. Hein, c'est un rayonnement de quelques minutes, je crois, de mémoire. Et quelques séances de traitement, et puis c'est fini.
Dans 98% des cas, la tumeur est détruite, se félicite le docteur Cassou, chef du service d'oncologie oculaire à l'Institut Curie. Mais elle insiste, si on voit un flash dans l'œil ou si le champ visuel est altéré, il faut faire un fond de l'œil en urgence.
Le problème du retard au diagnostic, il est lié déjà au problème de l'accès aux soins, en particulier en province, où les rendez-vous d'ophtalmologie peuvent être assez éloignés. Et des patients qui eux-mêmes négligent un petit peu le fait qu'ils aient un flash et qu'ils ne pensent pas que ça peut être quelque chose de grave. C'est pour ça qu'il est important de faire des diagnostics précoces, car les tumeurs qui sont très très volumineuses, on est obligé malheureusement de retirer le globe oculaire.
C'est d'ailleurs ce qui est finalement arrivé à Vincent. Sa tumeur avait endommagé sa rétine, mais il a eu le temps de s'y préparer.
Et ça a été un vrai soulagement. C'est-à-dire, je me rappelle très bien qu'en salle de réveil de l'opération dénucléation, je me suis rendu compte que la douleur avait disparu. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, les 6 mois précédents, j'avais beaucoup souffert.
Une nucléation,
ça veut dire qu'en fait, on retire le globe oculaire. On conserve en fait les muscles. Ça permet ensuite de poser là-dessus une sorte de prothèse qui est comme si c'était un œil, mais elle est plate. Hein. C'est comme une lentille en fait qui est peinte. Il y a des vrais artistes qui font ces prothèses-là. Bon, il y a une toute petite différence, mais ça bouge quasi naturellement. Les gens qui ne me connaissent pas ne repèrent pas que j'ai une prothèse oculaire.
Vincent a ensuite été très bien suivi pendant 5 ans à l'Institut Curie, mais comme dans 30% des cas.
Malheureusement, le dernier rendez-vous que j'avais du scénario des 5 ans, on a découvert une métastase au foie. Donc voilà, donc ça a été un petit coup au moral, parce que c'était un peu dur, de se dire, bah non, finalement, je suis dans le scénario avec métastase. Mais la chance que j'ai, c'est d'avoir un système de suivi qui permet de s'assurer que, autant que possible, si la maladie se réinstalle, on la repère suffisamment tôt pour qu'elle soit opérable.
Effectivement, Vincent a été réopéré du foie avec succès. Il demeure donc important de prendre ce cancer très tôt. Il existe, on le rappelle, 2 lieux en France, Orsay et Nice, où on pratique la protonthérapie de l'œil. C'est suffisant, assure le docteur Cassou.
Comme c'est une machine qui est très chère et qui demande beaucoup de maintenance, il faut quand même qu'elle soit rentable, malheureusement, comme tous les appareils médicaux. Et donc, étant donné que c'est un cancer rare, il ne me paraît pas utile qu'il y ait d'autres appareils sur le territoire français.
En revanche, il faut que les ophtalmologues pratiquent un diagnostic rapide dès le moindre doute. Et il faut lever de l'argent pour poursuivre la recherche afin qu'on comprenne pourquoi l'immunothérapie qui fonctionne bien dans le mélanome de la peau ne marche pas pour le mélanome de l'UV.
Dossier signé Tara Schlegel, notre spécialiste santé. Demain mercredi, le temps sera plus sec malgré quelques averses encore sur une large moitié est. Dans le sud, il y aura du vent. Les températures seront de saison, 0 à 8 degrés pour les minimes. L'après-midi, 8 à 14 degrés en général, jusqu'à 18 sur Toulon et sur l'île de Beauté. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.